RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Tour de France, la route du Tour pour la dernière journée en Corse aujourd'hui. Une étape sublimissime entre Ajaccio et Calvi. 145 km au programme des coureurs et des routes que vous allez découvrir à l'écoute d'RMC ou en regardant la télé, en nous écoutant évidemment avec toute l'équipe d'RMC Sport. Nous sommes évidemment sur la route, installés ici à Calvi, ou sur la route avec Georges Quirino sur la moto RMC. Il va nous faire tout de suite, nous dresser tout de suite une petite carte postale. Et il y en a des choses à raconter aujourd'hui. Salut Georges.
Salut Christophe, salut à tous, salut à Marco également qui est aux commandes de la moto RMC. Ouais, il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui effectivement, mais il faut avoir l'estomac bien accroché, hein, puisque il n'y a pas une seule ligne droite pratiquement dans tout ce parcours qui nous mène jusqu'à Calvi. Ce sont des routes très sinueuses, très escarpées, beaucoup de virages. C'est pour ça qu'on appelle le rallye de Corse la course aux 1000 virages. On peut bien le comprendre en voyant le parcours aujourd'hui. On vient de dépasser, Christophe, un paysage somptueux, les calanques de Piana qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec les 5 échappés qui étaient juste derrière nous, avec les 5 échappés, avec Cyril Gauthier, les Français, avec Sébastien Minard, avec Alexis Vuillermoz, avec Liu Vestra, le Néerlandais, et Simon Clark, l'Australien. On vient de franchir la troisième des 4 difficultés au programme aujourd'hui, sous un grand soleil, et le peloton derrière qui file pour ne pas laisser partir trop loin cet échappé. Et c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle on va dans ces toutes petites routes, vraiment. Et en tout cas, on voit que le public corse est au rendez-vous, puisque le long des ascensions, les drapeaux corse étaient là pour encourager une fois de plus les coureurs aujourd'hui.
Très bien, très très bien. C'est magnifique, les calanches de Piane. Hein, de Piane, comment on dit? De Piane ou de Piane, Georges?
Oh, les calanques de Piane.
Les calanques de Piane, voilà. Ah, c'est bien, au bout de 3 jours en Corse, tu vas commencer à t'y mettre en Corse. Frédéric Adam est également à mes côtés. Salut Fred, on a fait la route ce matin, on a eu plein les mirettes. On est obligé de s'arrêter tous les 5 km pour faire des photos. Hein.
Oui, ou autre.
Ou s'arrêter pour éviter de vomir.
Il fallait effectivement avoir l'estomac bien accroché. C'est vrai, c'est une route en corniche. Elle rappelle pour ceux qui sont dans la région, et je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter dans ce coin assez idyllique de la France, et elle rappelle la route empruntée
Cassis,
aujourd'hui,
la route des crêtes
de Cassis, mais plus encore la corniche d'or entre Saint-Raphaël et Cannes, là où les coureurs professionnels ont l'habitude de multiplier les stages d'entraînement l'hiver. C'était notamment le cas ces dernières années. Maintenant on va davantage à l'étranger et même au bout du monde. L'Estérel, le massif de l'Estérel, ces roches rouge et ces routes en bord de mer avec vue sur une eau de bleu marine à bleu turquoise, des pins, des eucalyptus partout autour et un grand soleil et fatalement des odeurs.
Fais-nous le bruit des cigales et on y est complètement. Vous y êtes là en nous écoutant? Vous y êtes sur les calanques de Piana?
Ça sent bon le mois de juillet, ça sent bon le Tour de France, c'est 1er juillet aujourd'hui, bienvenue sur les routes du Tour.
Très bien Fred, premier top course évidemment pour se mettre en situation. Car il n'y a pas que le paysage, il y a aussi la course sur le Tour de France.
RMC Top Course.
Avec, comme ce fut le cas ces deux dernières journées, lors des deux premières étapes du Tour, une échappée qui s'est développée dès le départ donné tout à l'heure à la sortie d'Ajaccio. Ils sont 5 à l'avant de la course, à seulement 59 km de l'arrivée. 5 coureurs, dont 3 Français, le Breton Cyril Gauthier de l'équipe Europe Car, déjà à l'attaque hier en direction d'Ajaccio. Sébastien Minard, le coureur de la formation AG2R La Mondiale. Alexis Vuillermoz, un néo-professionnel de la formation Jason. Et puis sont également présents le Hollandais Liu Vestra pour l'équipe Vacances Soleil et l'Australien Simon Clark pour l'équipe Orica Green Edge. 59 km de l'arrivée, 1 minute 30 d'avance pour ces 5 là. Ce sont les Sky de Christopher Froome qui depuis plusieurs kilomètres mène le peloton presque en file indienne. Christopher Froome qui veut peut-être profiter de la dernière difficulté du jour à 13 km de l'arrivée ici à Calvi pour à nouveau tester ses jambes et ses adversaires.
Très bien. On va poser la question tout de suite à notre druide international, Cyril Guimard, en haut, là-haut, sur sa tribune commentateur, où il regarde le paysage. Salut Cyril.
Oui, bonjour. bonjour à tous. Le paysage pas tellement parce que il y a une haie d'arbres très haut et donc on a du mal à apercevoir la montagne derrière. On la devine.
Eh
oui, moi je suis brimé aujourd'hui.
Voilà, tout à l'heure il était à l'arrière de la voiture, brinque-ballée de droite et de gauche.
J'ai été très brimé aussi. voilà, donc j'ai même pas pu regarder effectivement ce magnifique paysage. Enfin, je le suppose puisque vous le dites.
Alors Cyril, Fred a avancé la possibilité que Chris Froome à nouveau montre à ses adversaires de quel bois il se chauffe sur ce Tour de France. On l'a vu hier à l'attaque. Est-ce que tu penses que la tactique des Sky aujourd'hui est faite de manière à faciliter peut-être une tentative dans les derniers kilomètres de l'étape?
Ça manquerait un peu de spontanéité puisqu'il l'a fait hier. Il faudrait qu'il fasse autre chose aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être attaquer dans une descente. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il y a plus de kilomètres pour aller à l'arrivée. Il y en a 13,5 alors qu'hier, non, il y en avait seulement 10. Non, je ne pense pas. C'était la dernière ascension. Hein. Celle-là, j'ai bien pu la voir. Ne se prête pas à une attaque d'envergure au niveau d'un coureur comme Froome. Alors que hier, on était sur un pourcentage très élevé puisqu'on dépassait les 12%. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des pourcentages à 8%. Donc, l'effet ne serait pas le même. Et puis, la descente n'est pas aussi technique qu'elle l'était hier. Donc, beaucoup moins de... C'est pas nécessaire de prendre des risques aujourd'hui.
Pas nécessaire de prendre des risques. En revanche, c'est quand même un terrain propice aux attaques, notamment en fin de course. Alors évidemment, pour l'instant, il y a un groupe avec 1 minute 25 d'avance. On ne sait pas trop ce qui va arriver de cette échappée. Ce qui va advenir de cette échappée.
Vous n'avez pas une petite idée?
Ah oui, elle va se faire rebecter à quelques kilomètres de l'arrivée. Mais il pourrait y avoir des contres, parce que le terrain est propice quand même aujourd'hui, Cyril. Hein.
C'est un vrai terrain pour une grande bataille. Mais j'ai presque envie de dire, c'est un parcours presque trop difficile, hein, à part quelques kilomètres de plat avant le kilomètre 50. Le reste, il n'y a pas un mètre de plat, et il n'y a pas 100 mètres de ligne droite non plus. Je peux vous dire que les coureurs ce soir qui doivent reprendre l'avion vont être un petit peu séchés parce que la quantité, enfin la qualité de concentration qu'il faut aujourd'hui pour ces successions de virages en montée ou en descente va les épuiser sur le plan de l'influx nerveux. Et j'ai presque envie de dire, même sans se battre, même sans rouler, sans attaquer, eh bien on va finir complètement fané.
Ça va laisser des traces, même si l'étape n'est pas très longue, hein, 145 km, mais c'est vrai que ça...
Oui, mais t'es toujours en prise.
Toujours en prise, ouais, évidemment.
Toujours en prise et toujours obligé d'avoir l'œil attentif, la tête levée, apprécier la trajectoire. Bon, ça va, le macadam est de bonne qualité, il faut le dire, d'ailleurs, sur l'ensemble d'ailleurs de ce Tour de Corse, du Tour de France, comme je l'appelle. On a vraiment eu des routes parfaites, quoi.
Ouais. Alors, évidemment, tous les coureurs du Tour de France, et notamment tous les leaders, étaient très inquiets hier de cette étape. Je crois, Fred, qu'ils sont même venus la reconnaître à plusieurs reprises parce que, en voyant le paysage sur la carte,
le profil
plus exactement, ils se sont dit qu'il y avait peut-être des coups à faire ou des coups à ne pas prendre surtout.
Exactement, et c'est vrai que les récentes éditions du Critérium International organisé par ASO comme le Tour de France se sont disputées en Corse et la présence des équipes professionnelles a permis à leurs coureurs d'aller reconnaître cette étape et manifestement on a tout enregistré puisque les favoris, on a vu tout à l'heure les Saxo Tinkoff d'Alberto Contador, les Sky de Christopher Froome et ce sont les Radio Shack désormais du maillot jaune Bakelands mais aussi d'Andy Schleck sont à l'avant du peloton et ont parfaitement repéré qu'il n'y avait quasiment pas un mètre de plat sur cette route du bord de mer, cette route de corniche et qu'elle était très étroite. Vigilance absolue, on redoutait plus de perdre du temps qu'une grande explication entre favoris. Une chute, une cassure, ça peut intervenir en particulier lors des premières étapes des Tours de France. Là, on imprime un rythme assez élevé en ce qui concerne les équipes de favoris. Voilà, le sport cycliste est aussi tactique.
Tiens, on va écouter tout de suite Jean-François Pécheux qu'on a interrogé hier à l'arrivée de la deuxième étape, nous parler de cette étape que tous les leaders ont cochée et que tous sont venus inspecter avant d'y passer aujourd'hui. Jean-François France en pêcheux.
Les coureurs sont tous venus voir cette étape et ils ont tous peur. Et tout le monde craint cette étape, pas par la difficulté même de l'étape, mais par ce paysage grandiose, ces montées, ces descentes, ces routes escarpées. Et les coureurs vont jamais se voir, il n'y a pas de ligne droite. C'est vrai que le Tour peut se perdre en Corse pour certains leaders. Ça risque de frotter un petit peu au portillon et il y a ceux qui se font un peu de peloton.
Voilà, Jean-François Pécheux, le directeur de l'épreuve.
Petite question à Cyril, petite question, on va dire, de profane. Est-ce que lorsqu'on est coureur cycliste professionnel, sur des routes aussi idylliques, paradisiaques, avec la mer bleu turquoise à gauche et les roches rouges à droite, est-ce qu'on peut se laisser aller à divaguer et du coup perdre de l'attention sur le vélo ?
C'est possible, mais la chute est promise.
donc ça arrive une fois, non, peut-être deux,
ouais,
mais pas
non,
plus.
Mais oui, alors bon, vous allez tourner la tête, voir éventuellement pour parler à un équipier à côté de vous, et bien sûr la tête sur la gauche, hein, puisque la mer est sur la gauche, et bien là vous allez avoir une photographie instantanée, mais ça s'arrête là. Comme nous le disons, il n'y a pas un mètre de ligne droite, il n'y a pas un mètre de place, surtout dans cette partie où se trouvent les coureurs actuellement. Non, et d'ailleurs, lorsqu'on les regarde, vous voyez qu'ils sont tous concentrés et pourtant ce sont les hommes de tête que l'on voit. Donc vous imaginez au milieu du peloton où là il faut également être attentif aux autres pièges normaux d'une étape normale, quoi. Mm-hmm. Alors je voulais répondre, enfin faire une petite allusion, Jean-François Pécheux a dit que le Tour pouvait se perdre là, mais il y a une chose, c'est que pour les coureurs bien sûr, mais là les coureurs risquent pas de se perdre sur la route parce qu'il n'y en a qu'une.
Oui, c'est sûr, il n'y a pas d'autre solution à part avec un VTT, essayer peut-être de descendre par des chemins escarpés, mais c'est pas recommandé.
Ce que j'ai pu voir sur les quelques secondes où j'ai pu regarder, même en VTT, ça passe pas. Mais en rappel, peut-être.
Hein. Il a pas aimé notre conduite, Fred, a priori, le druide aujourd'hui. Très bien, messieurs, il est 15h18. On va tout de suite parier sur RMC, évidemment, dans l'intégral tour.
Les paris RMC. Tour de France.
Et nous accueillons Benji comme tous les jours qui va nous récapituler les cotes des différents favoris de cette étape. Salut Benji.
Salut messieurs.
Et nous rappeler le classement également des parieurs d'RMC, oui, avec un seul homme en tête. Et oui, c'est Luc Leblanc pour la première fois depuis 13 Tours de France. En 13 Tours de France, c'est la première fois qu'il est leader en Paris. Hein. C'est déjà pas mal. C'est mieux vaut tard que jamais, hein, finalement.
Oui, bon, il faut dire que Luc Leblanc était le spécialiste de jouer Andy Schleck et que si Contador n'avait pas. Enfin, on se comprend, hein, Christophe. Il aurait pu gagner d'autres Tours de France, Luc Leblanc.
Oui, oui, d'accord. Alors, quels sont les favoris aujourd'hui? Quels sont les cotes des différents favoris?
Alors, il y avait un grand favori hier, c'était Peter Sagan, cote de 4,60. Je ne sais pas si c'est le fait que le druide ait joué Peter Sagan, tout comme toi, Christophe, mais la cote a baissé de moitié. Elle est désormais à 2,30. Peter Sagan, large favori, devant Simon Gerrans, qui n'était pas du tout dans les favoris hier. Il est deuxième favori aujourd'hui. Sylvain Chavanel, troisième, 14 la cote. Et puis Boasson Hagen, qui a été joué par Fred Adam, qui m'a envoyé son petit prono juste avant que la course ne démarre. Donc c'est homologué. Boasson Hagen est à 18.
Ok, Cyril, donc tu as donné Peter Sagan. T'as pas voulu prendre de risque aujourd'hui. Peter Sagan, c'est un parcours pour lui aujourd'hui. On a remarqué d'ailleurs que ses supporters s'étaient postés très près de l'arrivée avec une énorme banderole en faveur de.
Ah, vous avez eu le temps de la voir?
Oui, et puis en plus, on est passé dans le golfe de Sagan. Tout à l'heure, hein,
oui,
donc
à fait,
ça
oui.
Va peut-être lui donner des idées.
Oui, oui, je ne prends pas de risque en prenant Sagan, en prenant quelqu'un d'autre, on prend quand même des risques. Mais pour revenir à Simon Gerrans, oui, c'est quelqu'un qui peut avoir son mot à dire dans le final. Oui.
Ok, donc tu donnes Sagan en 1 et Gerrans en 2, ou un des deux en tous les cas.
Oh, si on veut.
Si on veut. Georges, on n'a pas demandé son pari à Georges. On va voir un peu ce qu'il en est, parce que lui aussi a le droit de jouer. Non mais oh, Georges, Quirino.
Ouais.
T'as le droit de jouer.
Non mais vous m'avez pas fait jouer depuis le début.
C'est pas grave. T'as un peu de retard, mais tu sais.
Non, mais comme vous savez que je suis sûr de remporter le maillot blanc, c'est pour ça que vous ne jouez pas.
Oui.
Je suis seul à me battre pour ce
classement. T'as déjà un maillot sans combat.
C'est ça. Le prix de la non-combativité, c'est ça. Moi, je vais mettre une pièce sur le Portugais Rui Costa de l'équipe Movistar, vainqueur à Superbes.
Non.
Il y a deux ans.
Le druide n'est pas d'accord avec
toi. Non.
Alors là, ouais, il se fait taper sur les doigts. Là.
Ah bah oui, non. Alors là, tu vas plonger dans les abîmes. Rui Costa joue. Rui Costa, je l'ai dit, joue le podium à Paris. Il va pas s'amuser.
Les supporters portugais sur les bords de la route ici en Corse. Je pense que les supporters portugais qui sont très nombreux ne sont pas venus pour rien.
Si tu paries en fonction des supporters, tu vas être mal. Hein.
Ah bah sinon je parierais tout le temps sur les Français, t'as raison, s'il arrive.
Très bien, donc le druide n'est pas d'accord, enfin si c'est Rui Costa qui s'impose, je pense que là, on pourra écouter la bande.
Allez, voilà.
Luc Leblanc vient de nous rejoindre, il n'a toujours pas mangé, donc il est de très mauvaise humeur. Et malgré les appels insistants à l'antenne hier demandant qu'on lui amène un sanglier ou du saucisson, toujours rien, décidément.
Je crois que les Corses ils m'ont pas écouté.
On a pu te lire aujourd'hui dans le journal, on a appris plein de choses. Hein. Ça va Luc?
Bah écoute, ça va, bonjour à toutes et à tous.
La route était belle. Hein.
Magistrale. Fantastique, il n'y a pas de mots parce que franchement c'est vraiment la Corse. Je connaissais pas la Corse. Je crois que c'est vraiment la plus belle région au monde.
T'as déjà
enfin, je crois.
Après le Limousin.
Ouais, mais ça ressemble un peu le Limousin, la Corse.
T'as déjà couru sur des routes aussi belles?
Non. Franchement, tout je me suis dit. Même arrêté. J'ai perdu un petit peu de temps. Je me suis arrêté pour prendre des photos.
Notre réalisateur Thierry Humberti, qui est un grand voyageur, nous dit c'est moins beau que la Nouvelle-Zélande. C'est du même niveau, moi je dirais.
Différent, hein.
C'est bien différent, mais la Nouvelle-Zélande c'est un peu plus grand, mais c'est aussi très divers au niveau des personnages, des paysages, plus exactement les personnages aussi. Il y a plus de Maori qu'en Corse. Fred, ton favori. Ah, il y a des trompettes aussi.
Edvald Boasanhagen, j'ai donné parce qu'il est en pleine bourre, le Norvégien de l'équipe Sky. Il a gagné son tour national il y a quelques semaines et peut-être qu'aujourd'hui les Sky vont lui laisser jouer le sprint final, si sprint il y a. Et la dernière difficulté du jour, une longue côte de 3 km à 9% devrait faire le ménage parmi les sprinteurs, mais Boasanhagen a parfaitement le profil pour passer ces difficultés et aller régler tout le monde.
Ok Benji, ton pronostic?
Moi c'était Joaquin Rodriguez, Christophe, Joaquin et Rodriguez. Je vous donne celui de
Thierry
de Bourgui, il avait joué Thomas Vauclair.
Très bien. Cyril, on a aussi évoqué le cas de Sylvain Chavanel qu'on a vu à l'attaque hier, qui fêtait son anniversaire. Bon, il s'est fait avoir un peu dans le final. Est-ce que c'est un profil pour lui aujourd'hui aussi?
Oui, comme celui d'hier, mais on a quand même beaucoup de... Enfin, j'aurais un certain nombre de réserves parce qu'il avait l'occasion hier, il l'a raté sur le tour. Quand on rate une occasion, elle ne se représente pas obligatoirement le lendemain. Donc je vais rester sur cette conclusion.
Très bien, parfait. On verra bien si quelqu'un a le bon pronostic, a le bon vainqueur d'étape tout à l'heure, après l'étape. Merci Benji, on te retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Il est 15h23 sur RMC. Avant de se quitter quelques instants, un nouveau rappel de la situation de course. C'est le top course et c'est avec Fred Adam.
RMC, top course.
Troisième étape du tour, la dernière en Corse entre Ajaccio et Bastia. Il reste 50 km à parcourir. Les coureurs sur le bord de mer, toujours près des calanques de Piana. 5 coureurs échappés depuis le premier kilomètre. 3 Français, Sébastien Minard, Cyril Gauthier, Alexis Villermoz, un Australien Simon Clerc et le Hollandais Liu Vestra. À moins de 50 km de l'arrivée maintenant, ils viennent de voir leur avance remonter un peu. 2 minutes sur un peloton emmené par les Radio Shack du maillot jaune belge. Jan Bakkelands.
Très bien, 15h24, on revient dans une toute petite minute. Il reste tout juste 50 km à parcourir dans cette troisième étape du Tour de France et ça en sera fini du Tour de Corse. Ensuite, place au continent demain avec le premier contre-la-montre de ce Tour de France par équipe dans les rues de Nice. On se retrouve nous dans une petite minute dans l'intégral Tour. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
La route du tour pour la troisième étape de cette grande boucle, dernière étape sur les routes corse, mais on a gardé le meilleur pour la fin ici en Corse avec cette sublime étape donc entre Ajaccio et Calvi, 145 km au programme, la troisième étape qui va arriver très tôt dans l'après-midi car ce soir évidemment c'est le déménagement, tout le monde va quitter la Corse pour regagner le continent et notamment les coureurs, c'est la raison pour laquelle l'étape s'achèvera a priori entre 16h et 16h30, les coureurs prendront ensuite l'avion Fred, et puis les suiveurs, eux, vont partir un peu plus tard avec la grande incertitude. Est-ce que tout va bien se passer? Parce que c'est une grosse, grosse organisation à mettre en place ce soir.
Oui,
hein.
Mais c'est une organisation qu'ont déjà connue les patrons du Tour de France avec les transferts depuis l'Angleterre, le sud de l'Angleterre, quand le depuis Tour était Dublin parti aussi. De Londres, depuis l'Irlande avec ce départ de Dublin. Faisons leur confiance. Les petits plats ont été mis dans les grands comme d'habitude, mais quand même 2000 véhicules, 4500 personnes à transférer. Donc il y aura deux
avions.
Alors
2000 véhicules, ça nous fait une file ininterrompue pour donner une image entre la place de la Concorde et l'Arche de la Défense.
D'accord, ouais, ça parle pas mal, c'est pas mal. Voilà, on va être bien répartis. Alors, on sera dispatché sur quatre ports autour de la Corse. Calvi, juste à côté, pour les véhicules légers. Il y aura du monde qui partira de l'Île-Rousse, dont vos serviteurs. Mais les ports de Bastia et d'Ajaccio seront aussi sollicités.
Mis à contribution, ouais.
Exactement, Bastia pour la caravane publicitaire, Ajaccio pour le bus des équipes et les équipements du village départ, l'Île-Rousse pour le village arrivé, les installations d'ici sur la ligne et les véhicules de la course, les directeurs sportifs, les soigneurs, tout ça est un grand barnum, mais sûr que demain on sera à Nice pour le contre-la-montre par équipe.
Exactement, et les coureurs ils seront dès ce soir à Nice, ils pourront se reposer sur la Côte d'Azur avant d'attaquer ce rendez-vous important qui est le contre-la-montre par équipe. On va retrouver la moto elle aussi qui va prendre le bateau ce soir direction Nice. Georges Quirino va retrouver papa et maman demain, hein. ça va faire du bien. Georges, un petit point sur la course, une nouvelle carte postale sur cette magnifique étape.
Bah écoutez, on est derrière les cinq coureurs échappés depuis le début, avec les trois Français, Gauthier, Minervi, Hermoz, Juvestral néerlandais et Simon Clark. On est dans une portion de descente là désormais, après le col de la Croix qui n'est pas répertorié. Nous avons à notre gauche le golfe de Focolara avec la mer turquoise, bleu turquoise juste derrière nous. Et puis on voit les pins et les oliviers juste à côté de nous. Ça sent bon la Corse, en tous les cas sur ces routes où le soleil aujourd'hui tape très très fort. Il y a une grosse chaleur sur les routes du Tour aujourd'hui. On n'a pas les thermomètres à côté de nous, mais en tous les cas on a vu les coureurs s'hydrater très souvent depuis le début de cette étape, car il n'y a pas un nuage au-dessus de nous. C'est un grand ciel bleu qui nous accompagne depuis le départ à Ajaccio à 12h52 tout à l'heure. Et pour l'instant les cinq coureurs de tête qui continuent en file indienne, et on peut distinguer là-bas au bout dans cet enchevêtrement de la on peut voir les pelotons avec les coureurs de la formation Radio Shack, si je ne me trompe pas, qui sont devant. On peut vraiment voir toute tous les suiveurs du Tour sur des kilomètres. On a vraiment une vision là assez globale de toute la course dans ce décor de carte postale. On peut voir vraiment très loin ce qu'il se passe. Et voilà, et les cinq coureurs qui sont juste derrière nous et qui s'entendent parfaitement depuis quelques instants avec Simon Clark, avec notamment Minard qui emmène maintenant le groupe. Et l'écart est trop faible avec le peloton derrière, et du coup eh bien, il n'y a pas de voiture de directeur sportif qui les accompagne pour les aider et pour les ravitailler en cas de besoin. Mais bien évidemment il y a des voitures d'assistance qui sont là.
Ah, avec un long serpent, avec les images aériennes qui nous arrivent ici dans notre petit camion, c'est impressionnant, hein, Lucho, entre le premier du peloton et le dernier, je ne sais pas combien il doit y avoir
peut-être 20 secondes entre le premier et le dernier du peloton, hein, facile, hein, parce que c'est tortueux, mais c'est impressionnant.
La route n'est pas très large, hein.
La route n'est pas très large, regarde d'ailleurs il passe un petit pont, c'est très très tortueux pendant de nombreux kilomètres, et vraiment bon là le peloton, l'équipe du leader du maillot jaune est en train de cadenasser un petit peu le peloton, mais je peux t'assurer que s'il y avait des attaques dans la descente, là il y a des cassures très certainement. Et j'ai pensé quand j'ai descendu sur la course, là quand je descendais je pensais à comment il s'appelle, Andy Schleck, ouais, parce que comme Andy Schleck n'est pas un grand descendeur, mais là bon,
enfin c'est pas la descente de l'Alpe d'Huez quand même,
oui,
hein,
mais c'est assez dangereux, ouais. Quand même, hein.
Faire puis, attention, ce qu'on disait tout à l'heure,
c'est propice à une belle échappée devant, hein, comme les cinq, mais bon malheureusement ils n'iront pas au bout, hein.
Andy Schleck en 6-7e position du peloton, puisqu'il fait évidemment partie de l'équipe Radio Shack qui compte dans ses rangs Yann Bakelands, le porteur du maillot jaune, vainqueur hier, le Belge de 27 ans, vainqueur à Ajaccio, au nez et à la barbe des principaux favoris.
Très bien, messieurs, on va s'interrompre quelques instants, quitter la Corse pour aller dans le froid de l'Europe du Nord, en Angleterre, à London, à Wimbledon plus exactement, où Eric Salio nous attend après avoir passé un dimanche à manger des fraises à la crème. Il est de retour. Salut Eric. Salut. Les Français sont également de retour sur les cours aujourd'hui. Il y en a trois, hein.
Il y en a trois, et il y a surtout Adrian Manarino qui n'est plus qu'à un set d'une qualification, je ne vais pas dire improbable, mais inespérée en quart de finale de Wimbledon. Il était à 2-7 partout face au Polonais Kubot. Malheureusement, faut vous le dire, hein, Kubot a le break dans le troisième, dans le cinquième, donc il mène 2-0. Et Adrian est en galère sur sa mise en jeu, puisqu'il a même dû sauver des balles de double break dans ce début de cinquième set. Et puis sur le cours numéro 3, ça va débuter dans quelques minutes pour Kenny De Schepper, donc le deuxième français en lice ici en huitième. Il sera opposé, lui, à l'Espagnol Fernando Verdasco. Je peux vous donner quelques qualifiés déjà chez les filles. Slipkens, Kvitova, Nali. Et chez les garçons, c'est Ferrer qui se rapproche d'une qualif pour les quarts. Il mène 2-7-1 face à Dodig et 5-1 au quatrième.
Et les autres Français, donc, ce sera un peu plus tard, hein, tu nous as dit, Eric.
De Schepper, ça va débuter, ouais. C'est imminent. Et un peu plus tard, il y aura Marion Bartoli.
D'accord, très bien. Bon, on va passer l'après-midi avec toi. Tu n'hésites pas. Tu nous appelles dès qu'il se passe quelque chose d'important. Donc, Manarino, qui est donc mené dans la cinquième manche, 2-0 par son adversaire, qui a réussi le break. 15h34, on revient ici en Corse, toujours en direction de Calvi. Il reste 43 kilomètres à courir et c'est l'heure d'un nouveau Top Course, Fred.
RMC Top Course.
Avec toujours 5 coureurs à l'avant sur cette troisième étape, il reste 43 kilomètres à parcourir. Bientôt, la tête de course va quitter les calanques de Piana et rentrer dans l'intérieur des terres en direction de Calvi. Ils sont 5 à l'avant, les Français Sébastien Minard, Cyril Gauthier, Alexis Villermoz, un Australien Simon Clark et le Hollandais Liu Vestra à 43 kilomètres de l'arrivée alors qu'il reste une difficulté classée en deuxième catégorie. Attention, il compte 1 minute 30 d'avance sur un peloton emmené par les Radio Shack du maillot jaune Yann Bakelands.
Allez, nous revenons dans une petite minute pour la suite de cette troisième étape. Encore 42 km à parcourir. On s'en met plein les yeux aujourd'hui sur les routes Corse. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Encore 40 km à parcourir et ça en sera terminé du Tour de Corse. Après, ce sera le Tour du Continent. Mais c'est vrai qu'on s'est régalé durant ces trois jours avec cette troisième étape. Aujourd'hui, entre Ajaccio et Calvi, 145 km. Il ne reste plus que 40 km à parcourir. Et avant d'aller voir la moto, Fred, tout d'abord, un incident de course qui vient de toucher le champion de France.
Oui, 40 km de l'arrivée. Un homme à terre, Arthur Vichot, qui s'est assez rapidement relevé, mais avec des soucis technique. Il est actuellement à l'arrière du peloton, esselé, mais en compagnie tout de même de la voiture qui le suit, la voiture FDJ de son directeur sportif, avec un mécano qui est en train de trifouiller son dérailleur. Le champion de France qui n'est pas attendu par ses équipiers de la FDJ. A priori, pas de bobo pour le tout frais champion bleu-blanc-rouge. Rappelons qu'à l'avant de la course, Sacom continue d'évoluer une minute devant le peloton. Trois Français, Sébastien Minard, Cyril Gauthier, Alexis Villermoz, Liu Vestra le Hollandais et l'Australien Simon Clark, une minute d'avance à 40 km de l'arrivée.
Juste pour évoquer Arthur Vichot, Luc, c'est vrai que ça fait plaisir de voir un maillot de champion de France sur les routes du Tour. On n'avait pas eu l'année dernière puisque Nasser Bouhanni, le champion l'année dernière, n'avait pas été sélectionné pour le Tour. C'est toujours un moment particulier. Tu as porté toi le maillot tricolore sur les routes du Tour?
Oui, je l'ai porté, mais malheureusement j'étais pas en grosse condition parce que j'avais fait une grosse campagne avant le Tour, Dauphiné, Tour de l'Oise et tout. Et midi libre, enfin bon, j'avais fait que des résultats.
Une campagne victorieuse, hein.
Oui. Moi, j'avais fait deuxième du Tour de l'Oise derrière Miguel Indurain, j'avais fait deuxième de la Classique des Alpes, deuxième du Dauphiné, j'avais gagné des étapes, j'ai gagné le midi libre avec plusieurs étapes aussi. Et puis je suis arrivé une semaine avant le Tour, j'ai gagné le championnat de France sous les ordres de Cyril Guimard, n'est-ce pas Cyril, si tu t'en rappelles bien. Et puis une semaine après, j'étais vraiment au taquet physiquement et j'ai pratiquement fait le Tour tout seul. J'étais largué tous les jours. Et l'étape de l'Alpe d'Huez au départ, elle faisait 170 km. Je me suis fait lâcher dans la première ascension, donc au kilomètre zéro.
Il devait être content, ton directeur sportif.
On montait d'entrée et puis j'ai fait toute l'étape tout seul et j'arrive hors délai. J'arrive à 1h15 avec le maillot bleu blanc rouge, mais je tenais à finir cette étape malgré tout parce que je savais que j'allais être éliminé. Et on m'a mis l'oxygène à l'arrivée à l'Alpe d'Huez. J'étais mort. L'Alpe d'Huez, il fait 13,5 km à peu près. J'ai dû faire 20 bornes, quoi. Je tournais dans tous les sens. J'étais vraiment. J'étais très pâle au sommet.
En zigzagant, c'est effectivement plus long. Et ça fait plus de 21 virages, du coup, l'Alpe d'Huez.
Cyril, qu'est-ce qui s'est passé alors pour Luc? Il y avait une mauvaise gestion de l'Aventure de France, finalement, de la part du directeur sportif.
Attention à ce que tu dis, Cyril. Hein.
Vous voulez m'accuser du fait qu'il a fait le Tour de France tout seul avec une partie du Tour de France avec son maillot de tricolore. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu une mauvaise gestion.
Non, du tout.
Au contraire. Je pense que surtout Luc, personnage, vous le connaissez, très sensible, qui s'affecte assez rapidement s'il y a des choses qui ne tournent pas rond, a énormément dépensé d'énergie dans le conflit qui l'opposait à un autre conflit. coureurs de l'équipe, puisque en fait ce championnat de France est déterminé par un duel entre deux coureurs de l'équipe, de la même équipe, Gérard Ruet et puis Lucho Leblanc. D'ailleurs, que ça s'était mal passé après l'arrivée, qu'il y avait eu beaucoup d'agressivité, beaucoup de beaucoup d'accusations des uns et des autres. Bien sûr, les médias s'en étaient emparés, c'était du pain béni, et Lucho n'a pas supporté et il est arrivé. D'accord. Il avait oublié de remettre la prise pour recharger les batteries entre le championnat de France et le départ du Tour.
Très bien, voilà, on saura tout. Vous connaissez
les pédales et vous en saurez plus.
Voilà, ouais. En fait, c'était bien en matière de publicité, de relations publiques. Ils vont être très contents. C'est l'heure de notre jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner votre place VIP pour assister à l'étape de vendredi prochain entre Montpellier et Albi avec vos billets de train. La nuit, on est en hôtel 4 étoiles la veille de l'étape. Le survol d'une partie de l'étape en hélicoptère, ça c'est pas rien. Puis dans une voiture de l'organisation, le déjeuner et l'accueil dans le car VIP sur la ligne d'arrivée. Bref, un magnifique cadeau et une journée de rêve pour tous les fans du Tour de France pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau. Vous envoyez le mot-clé RMC par SMS au 732-16. Bonne chance.
Avec Skoda, voiture officielle du Tour de France.
Allez, on revient à cette course car il y a une course aujourd'hui sur les routes du Tour. On va tout de suite aller voir la moto avec Georges Quirino et Marc Comp aux commandes. Ça continue de tourner à droite, à gauche, puis à gauche, à droite. Et le peloton qui ne languit pas en route, hein, Georges.
Oui, exactement. On a pris un petit peu de champ pour doubler les échappées au sommet du col de Palamarelle qui n'était pas répertorié aujourd'hui dans les difficultés. On se rapproche du département de Haute-Corse et on est désormais rentré dans les terres. Nous n'avons plus la mer Méditerranée en vision. On est vraiment en plein cœur des collines désormais dans cette route qui serpente toujours. Et désormais, nous sommes en descente où il y a une succession de virages. Mais c'est assez roulant tout de même par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure dans les calanques de Piana. Et pour l'instant, les cinq coureurs qui sont toujours ensemble, on a vu Cyril Gauthier qui a eu un petit incident en mécanique tout à l'heure qui a été dépanné très rapidement par la moto d'assistance. Mais on a vu le peloton lorsque nous avions une vision un petit peu d'ensemble sur ces routes, sur cette corniche. On a vu le peloton qui était en train de revenir, qui était désormais beaucoup plus regroupé par rapport à tout à l'heure où nous étions en file indienne. Nous voyons ce peloton désormais revenir à pratiquement une minute, on a même entendu 50 secondes il y a quelques instants pour revenir sur ces hommes de tête qui ont désormais basculé dans cette descente avant d'attaquer la dernière difficulté de la journée. Et ils vont devoir s'accrocher comme nous d'ailleurs sur la moto parce que là ça serpente dans tous les sens. On n'a pas vu de ligne droite depuis le départ.
Ouais, Cyril nous disait hier, il y avait pas de ligne droite de plus de 145 mètres. Hein. C'était un petit peu exagéré, mais c'est vrai que ça tourne et retourne dans tous les sens. Hein.
Je crois que s'il y a 25 bornes de ligne droite aujourd'hui,
je crois qu'elle dépasse pas 30 mètres. Hein.
Ouais. Ouais. S'il y a 25 bornes de ligne droite aujourd'hui, encore même pas.
Ouais,
le départ est un peu sur l'arrivée.
Sur l'arrivée, malheureusement, l'arrivée est un peu plate et un peu en ligne droite, alors qu'on se sera régalé tout au long de cette étape. Arthur Vichon qui est toujours dans le dur, Fred, et qui va peut-être rentrer quand même.
Et apparemment, il ne se ressent pas, le champion de France, de sa chute il y a quelques kilomètres. Ça frotte, les routes sont étroites et effectivement, on ne veut pas se laisser piéger. Du coup, Arthur Vichon a été victime d'une chute en beau milieu du paquet. Il se regarde le coude droit, à peine écorché, le champion de France, mais son beau maillot bleu, blanc, rouge n'est pas arraché, n'est pas ouvert. On parle de chute. Il réintègre à l'instant l'arrière du peloton. Arthur Vichon, le coureur de la FDJ, un acrobate dans la descente sur cette route qui est en train de quitter le bord de la Méditerranée. On parle de chute. Parlons des deux premiers abandons du Tour de France aussi. On a attendu cette année la troisième étape pour voir deux coureurs se retirer. Il s'agit de l'ancien bon coureur rentré dans le rang depuis qu'il a été suspendu pour dopage, Andrei Kashechkin, l'ancien meilleur ami, devenu meilleur ennemi, puis redevenu ami d'Alexandre Vinokourov, le Kazakh. Kashechkin a quitté la route du Tour, tout comme un néophyte, Johan Bago, le fils de son papa, qui avait effectué un bon début de saison, le grimpeur de l'équipe Cofidis. Davis qui a quitté probablement victime de soucis de santé, Johan Bago.
Ouais, alors décidément pour cette équipe Cofidis, Fred, c'est terrible, hein. Ce début de Tour de France, c'est une catastrophe. Cyril, je crois que les deux leaders ont été relégués au fin fond du classement. Ils ont été victimes de la chute d'avant-hier. Les deux leaders, on pense à Coppel et à Taramae. C'est terrible de commencer un tour comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en tant que directeur sportif? Et comment, qu'est-ce qu'il peut encore espérer aujourd'hui, Yvon Sanquer, avec son équipe?
Bien, effectivement, c'est un peu dramatique. L'équipe a déjà eu quelques Tours de France où ils n'ont rien gagné, mais ils sont partis, j'ai l'impression, pour égaler leur plus mauvais Tour de France. Ils ne sont d'ailleurs que trois dans le temps du peloton d'hier. Tout le reste est rejeté complètement à l'arrière. Il reste dans les points, on va dire, Christophe Lemével. Il reste Rudy Mollard, le jeune espoir. Et puis l'Espagnol Daniel Navarro. Tous les autres sont très loin. Johan Bago, vous venez de dire, malheureusement, a été contraint à l'abandon. Mais vous avez Taramae qui est déjà à 5 minutes 39. Et Jérôme Coppel, c'est vrai, qui a été victime de la chute du premier jour, est à 12 minutes 44. C'est vrai qu'ils ne sont pas partis pour l'instant. J'espère que la roue va tourner. Mais ils ne sont pas partis dans les meilleures conditions au bout de 3 jours.
Tiens, on va l'écouter justement. Jérôme Coppel nous parlait de ses blessures. Lui qui visait, pourquoi pas, un top 10. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, ce n'est plus possible. Jérôme Coppel.
Du mal à bouger, il y a des secousses, ça fait mal. Il faut attendre que ça passe un peu. C'est vraiment les côtes. Là, je suis strappé, ça soulage un peu, mais ouais, j'ai du mal à tirer sur le guidon et à bien respirer. Maintenant, j'attends de récupérer un peu pour essayer de faire une belle étape dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Mais bon, j'ai essayé de m'accrocher un maximum. Il ne m'a pas manqué grand-chose, je pense, pour basculer. Mais bon, c'est comme ça, sur le tour, une chute ou une petite méforme, ça ne pardonne pas.
C'est comme ça, nous dit Jérôme Coppel. Fataliste, il faut l'être sur le Tour de France. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein? Mais c'est vrai que Jérôme Coppel, malheureusement, c'est pas de déception en déception sur le Tour de France, hein.
Un ancien vrai espoir du cyclisme français qui, on le disait tout à l'heure, c'est difficile de le répéter, mais c'est le cas, il est un peu en train de passer à côté de sa carrière. Attention, les années passent et parfois on se retourne trop tard. Attention, Jérôme Coppel, bien sûr, il a été pris dans une chute, mais il va pas falloir gâcher le talent plus longtemps. Il reste des courses, hein. Il est performant en général sur les courses du mois d'août, notamment sur les routes du Tour de l'Ain. Vous l'avez entendu, c'est un homme de la Savoie. Il connaît parfaitement ses routes et c'est vrai qu'il faudrait maintenant qu'il se mette à briller à un échelon un peu plus haut, un peu plus prestigieux.
Et est-ce qu'on récupère Luc, Cyril, de telles chutes? Est-ce qu'on peut penser attendre, patienter dans le peloton du Tour de France en attendant des jours meilleurs, notamment en troisième semaine où il y aura la montagne, Cyril?
Oui, tout dépend de la nature des traumatismes, hein, parce que bon, le fait d'être brûlé, le vernis parti, ça n'est pas grave, hein. Mais lorsqu'il y a des traumatismes, c'est-à-dire des chocs, que ce soit sur le plan des articulaires ou sur le plan musculaire, ou éventuellement ce dont se plaint un petit peu Coppel, de traumatismes au niveau des côtes ou au niveau des épaules, ça peut avoir des conséquences relativement importantes. On peut ne pas s'en remettre du tout, mais sinon je pense qu'il faut laisser passer 3-4 jours, le temps que tout ça se résorbe, et on peut retrouver 5-6 jours après l'intégrité de son potentiel physique.
Très bien, bon, on l'espère pour Jérôme Coppel, on l'espère également pour Rein Taramae et pour la formation Cofidis.
C'est le contre-la-montre par équipe qui risque d'être dur.
Demain, il risque de prendre un éclat terrible. Il va y en avoir partout, des écharpes. 15h51, vous êtes sur RMC, l'intégral tour revient dans une petite minute. Nous sommes à 30 km de l'arrivée. Dans quelques instants, la dernière difficulté du jour, le col de Marsolino. À tout de suite.
Jusqu'à 18h, intégral tour.
L'intégral tour est la troisième étape du Tour de France. Aujourd'hui, nous arrivons à Calvi et de là, le peloton et tous les suiveurs quitteront l'île de beauté qui mérite amplement son surnom. Ceux qui ne connaissaient pas cette île s'en sont rendus compte au cours des 3 jours de course auxquels nous avons assisté. Et actuellement, nous sommes à 28 km de l'arrivée à Calvi. On va tout de suite faire un point sur la course. C'est le Top Course et c'est avec Fred.
RMC Top Course.
Avec une dernière difficulté à venir à 13 km de l'arrivée, un col de deuxième catégorie, raide, long de 3 km. Bientôt, les coureurs de tête s'y présenteront. Ils sont 5 à l'avant, dont 3 Français échappés depuis le premier kilomètre. Sébastien Minard de l'équipe AG2R La Mondiale, Cyril Gauthier, le coureur de l'équipe Europcar, et Alexis Vuillermoz, le néophyte de l'équipe Sojasun. Ils sont accompagnés du Hollandais Liu Vestra et de l'Australien Simon Clark. Dernier pointage à 27 km 500 de l'arrivée. Une minute d'avance sur un peloton emmené à très vive allure par les radioshack de Jan Bakkelands depuis de longs kilomètres maintenant. On voit la grande carcasse de Jens Voigt, le quadragénaire bien tassé qui emmène le peloton en file indienne dans les longs faux plats descendants. Jens Voigt, increvable.
Alors l'intérêt des radioshack, Cyril, c'est que l'étape arrive au sprint de manière à ce que Bakkeland garde son maillot jaune, c'est ça, Cyril? Cyril est parti faire la sieste.
Non, je suis là.
Très bien.
Non.
Alors réponds, Cyril, vas-y.
Je suis toujours là. Je vous entends. J'ai bien entendu la question. Et j'y répondais, mais il y avait sûrement un problème technique. Hein. Ah. Oui, ils ont intérêt pour l'instant sur ces parties un petit peu délicates, hein, avec, comme on le disait, ces virages qui s'entassent les uns sur les autres, et bien à assumer le tempo en tête de peloton et de faire en sorte qu'il y ait une arrivée au sprint, puisque hier, Bakkeland a eu une idée géniale, c'est de conserver, d'essayer de conserver une seconde d'avance sur tous ses adversaires. Comme il n'y a pas de bonification, à partir du moment où il va finir dans le même temps que les coureurs qu'il précède au sprint, eh bien, il conservera son maillot et sera en jaune à Nice demain.
Avant le contre-la-montre par équipe, où là, voilà, il pourrait perdre ce maillot parce que les Sky et d'autres formations sont sans doute un peu plus rapides dans le contre-la-montre par équipe. La moto RMC, Georges Quirino et Marc Compo commandent. Nous approchons du pied du col de Marsolines. Hein, mon cher Georges?
Exactement, et les 5 coureurs de tête qui en terminent avec la descente du col de Palmarella qui était longue, sinueuse, une succession de virages. Ils vont maintenant arriver sur une zone de replat où enfin ils vont pouvoir assister des lignes droites. Ils vont pouvoir voir une petite ligne droite ici même où nous nous trouvons. Ils vont passer au-dessus d'un petit cours d'eau asséché. C'est très sec ici dans cette région de la Corse. Et voilà les 5 coureurs de tête qui se présentent avec le peloton qui suit derrière forcément en file indienne dans la descente de ce col de Palmarella. Ils vont passer dans quelques instants sous la banderole indiquant les 25 dernier kilomètre. Il restera encore 8 km à parcourir avant de s'attaquer à la dernière difficulté de la journée. Il faudra s'hydrater avant d'y aller car il fait très chaud une fois encore aujourd'hui sur les routes du Tour de France. Voilà les 5 coureurs qui sont encouragés maintenant. Voilà, au moment où ils passent juste au-dessus de ce cours d'eau, encouragé par les supporters qui sont venus avec les casquettes bien évidemment parce qu'il fait très chaud. Les 5 coureurs qui se relaient toujours, qui s'entendent très bien pour arriver au pied de cette côte en n'étant pas rattrapé par le peloton.
Alors, allons-nous assister à une bagarre dans ce col de Marsolino? Il n'est pas très long, hein, 3 km 300 à 8,1% de moyenne. Votre pronostic, messieurs, Lucho, il va se passer quelque chose là-dedans?
Mais oui, parce qu'on a mis un pronostic avec Cyril hier, Thierry. Je pense que pour gagner donc l'étape d'aujourd'hui, de toute façon, les 5 coureurs qui sont devant n'auront aucune chance, hein, parce qu'il leur reste plus que 37 secondes d'avance. Et pour gagner l'étape aujourd'hui, pour éliminer Sagan, il va falloir attaquer dès le pied. Donc je pense à des coureurs comme Valverde, voire Gilbert. Il faudra faire la différence dans cette ascension qui dure que 3 km, donc très courte quand même, mais il faudra attaquer au pied.
Fred?
Bien sûr qu'on va se livrer à une explication, peut-être pas entre grands favoris, mais je vois bien quand même Christopher Froome se détacher parce que les fourmis sont là. On l'a vu hier dans la dernière difficulté de la journée. Elle est encore plus longue, peut-être un tout petit peu moins raide qu'hier en direction d'Ajaccio, cette difficulté, mais il y aura également bagarre, c'est sûr, à l'avant de la course dans le groupe d'échappés, parce que ces 5 là, les 5 fuyards, comptent 35 secondes au dernier pointage, et pour espérer encore la victoire, il va falloir s'isoler à l'avant de la course.
Très bien, on accueille Dédé parce qu'on l'a retrouvé. Dédé,
Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé
Dédé de l'Assemblée des départements de France, il s'est régalé aujourd'hui. On s'est régalé sur cette route. Elle est sublime, cette route.
C'était beau, hein.
Oh là là.
C'était beau et
c'est, on en voudrait c'est, plus des comme ça. Hein.
Oui,
tu veux pas nous faire ça en Picardie, un truc comme ça, c'est pas possible.
Si, on peut faire ça, mais il faudra peut-être rajouter un peu de bloc béton à droite à gauche et remettre un peu d'herbe synthétique, hein, parce que c'est beaucoup trop plat là-bas.
Alors, dernière difficulté de la journée, André, le col de Marcelino, est-ce que c'est raide? Est-ce que c'est dur?
C'est raide, mais pas tant que ça, et c'est surtout large. La montée est large et la descente est relativement facile. Et une fois qu'ils auront fait la bascule, ça va aller vite, ça va aller très vite pour redescendre dans la plaine jusqu'à l'arrivée, jusqu'à vers Calvi. Il n'y a aucun problème pour les coureurs. De toute manière, le principal de la journée, le plus dur, a été passé sur les routes très escarpées qu'on a vues précédemment. Et puis, pour terminer quand même, il faudra quand même faire très attention aux deux passages à droite qu'on trouvera à 2 km de l'arrivée et à 700 mètres de l'arrivée. C'est deux ronds-points qu'il faudra absorber rapidement sans pour autant aller trop vite, sinon c'est dans les barrières qui vont terminer.
Très bien, on va vite retourner sur la course. Georges Quirino, la bagarre est lancée dans le groupe d'échappée, me semble-t-il. Ça... Georges?
Oui, le groupe d'échappée qui est derrière nous, effectivement, on voit que ça ne s'entend plus vraiment entre ces cinq-là, car le peloton, voilà, maintenant qu'on est sur une longue ligne droite, le peloton a les échappés en ligne demi. On voit l'avant-garde de ce peloton et les hélicoptères qui sont juste au-dessus, qui peuvent distinguer les cinq coureurs échappés qui n'arrêtent pas de se retourner, qui discutent énormément pour décider un petit peu de la marche à suivre pour la suite, pour arriver devant au pied du col. Mais désormais on voit mal comment ces cinq-là vont pouvoir résister au retour du peloton qui a accéléré ouais, au moment d'arriver dans la plaine et d'attaquer le col.
Très bien Georges, on te retrouve dans un instant, on remercie mon Dédé, à demain.
Demain
on est à Nice.
Oui, ça
connais un peu, tu connais,
oui, je connais bien Nice.
Je vais te faire visiter un peu, tu vois.
Oui, tu connais bien toi.
Un petit peu.
Oui.
Merci monsieur André de l'Assemblée départementale de France, on s'est régalé sur les routes corse, elles étaient parfaites. Allez, on se retrouve dans une petite minute pour l'ascension du col de Marcelino et ensuite l'arrivée, le final de cette troisième étape. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour.
L'Intégral Tour est la troisième étape en Corse, troisième et dernière étape, il reste 21 km. On y revient dans un instant. Auparavant, petit détour par Wimbledon. Malheureusement, mauvaise nouvelle. Eric Salio, c'est fini pour Manarino.
Oui, un de chute pour les Français, puisque Adrian Manarino vient de s'incliner 6-4 au 5e set face au Polonais Kubot. Kubot qui affrontera dans deux jours son compatriote Janowicz. Donc il y aura un Polonais en demi-finale. Et puis c'est mal parti aussi pour Kenny De Schepper, qui vient de perdre la première manche face à Fernando Verdasco.
Oh, il faudrait pas que ce soit un Black Monday aujourd'hui pour c'est nos possible, Français. Hein. Ça serait dommage. Merci Eric, à tout à l'heure. Allez, retour sur la course. Nous sommes à 21 km de l'arrivée et c'est très nerveux en tête de course. Georges Quirino sur la moto RMC.
Oui, effectivement, on a vu notamment Ljubestra, le Néerlandais, qui tentait de passer à l'offensive il y a quelques instants, et il y a eu une réaction immédiate de la part de ses quatre compagnons d'échappée, alors qu'on se rapproche désormais des 20 derniers kilomètres. Le peloton qui a un petit peu ralenti la cadence puisqu'il était revenu à 20 secondes. Désormais le peloton est relayé un petit peu plus loin. Peut-être que l'on attend le bon moment pour rentrer sur cette échappée. Peut-être que le peloton a estimé qu'il était rentré trop vite sur ces cinq coureurs de tête qui désormais ne semblent plus vraiment, en tout cas, s'entendre, plus afficher la même entente que depuis le début de cette étape.
Avec des accélérations qui se multiplient à l'avant, puisque deux coureurs viennent de sortir du groupe de tête à l'initiative de Simon Clark. C'est un Australien, il porte le maillot désormais bien connu de l'équipe australienne Orica Green Edge, l'équipe dont le bus était resté coincé, souvenez-vous, à l'arrivée à Bastia avant-hier. Simon Clark qui a emmené avec lui Sébastien Minard, le coureur picard de l'équipe AG2R la mondiale. Il passe à l'instant sous la banderole des 20 km et il compte 50 secondes d'avance sur le peloton, un peloton où l'on trouve l'intégralité des favoris et même les sprinters, et 12 secondes d'avance sur leurs anciens compagnons d'échappée, l'Australien Clark et le Français Minard, à 19 km 700 de l'arrivée.
19 km 700 de l'arrivée et le pied de la côte, Lucho, on espère qu'il va se passer des choses évidemment dans cette dernière difficulté de la journée. On a vu qu'il s'était passé des choses hier, aujourd'hui on espère encore. On espère. toujours.
Oui, oui, mais bon, ça sera plus les punchers comme Valverde qui vont attaquer. Je pense que des garçons comme Froome, Contador, Quintana vont rester tranquilles. Hein. Ça va se regarder un petit peu à ce niveau-là, mais le reste, certainement que ça va attaquer au pied. De toute façon, la côte est quand même très dure. Le petit col est quand même très dur, hein, 3 km. Et à l'évidence, s'ils veulent vraiment gagner des Valverde, Quintana, Joachim Rodriguez, il va falloir absolument, dès le pied, éliminer Peter Sagan. Parce que si Peter Sagan bascule, ça c'est évident, c'est lui qui va gagner puisque tous les sprinteurs seront relayés à l'arrière.
Cyril, c'est pas facile de faire sauter Peter Sagan, hein, parce que même dans les côtes, il a du punch l'animal. Hein.
Bien, le problème c'est qui peut suivre Peter Sagan dans ce type de course, c'est pas qui peut le faire, qui va le mettre en difficulté. Il se promène, ça c'est le genre de base sur lequel il va se promener. Rappelez-vous l'an dernier, les premières étapes, il y avait des arrivées au sommet de côtes relativement difficiles, même très difficiles, et il s'en allait chercher la victoire avec beaucoup de facilité. Donc là, ce que je pense, moi, c'est que les équipiers de Peter Sagan vont tout simplement faire le forcing dans cette ascension, non pas pour essayer de s'échapper, mais pour faire en sorte que les meilleurs sprinters qui sont dans ce peloton soient relégués à plus de 30 ou 40 secondes au sommet, de façon à ce qu'à l'arrivée, ils puissent disputer le sprint, bien sûr, pour la première place. Hier, il a échoué pour une seconde, mais surtout pour faire aussi en sorte que les sprinters candidats au maillot vert sur les Champs-Élysées ne puissent pas marquer de points.
Et oui, parce qu'on rappelle, Fred, hein, que la première étape, cette arrivée mouvementée, a quelque peu faussé le classement du maillot vert. Certains espéraient beaucoup. Il y a peu d'étapes avec arrivée au sprint, et pour des Cavendish, pour des Sagan et autres, ça a été un peu compliqué. Ils ont perdu des points.
Ils ont perdu des points. Marcel Kittel en a pris beaucoup et il sera un client. Il a encore passé en tête de peloton le premier sprint intermédiaire de la journée. C'est vrai que la donne a été faussée, mais c'est le cas sur tous les Tours de France. Et l'un dans l'autre, ça s'équilibre au fil des 21 étapes. C'est les aléas d'un Tour de France. On peut se louper une journée, mais au classement par points, en général, on a de multiples occasions de se refaire.
Alors Fred, on va faire un nouveau point sur la course, puisque nous sommes à 18 km de l'arrivée, donc dans les premiers lacets de l'ascension de ce col. Dernière difficulté de la journée, le top score.
RMC Top Course.
Et elle commence piano, cette ultime difficulté de la journée, le col de Marsolino, plus de 3 km d'escalade à plus de 8% de déclivité. Les principaux pourcentages élevés sont dans la partie finale. On va voir les sprinteurs décrocher du peloton. 18 km de l'arrivée, deux coureurs en tête, les rescapés de l'échappée matinale, le français Sébastien Minard et l'australien Simon Clark. Minard, coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, Clark pour l'équipe Orica Green Edge. Il compte 40 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune, un peloton emmené par les Radio Shack du leader de la course Yann Bakelants. Les anciens compagnons d'échappée de Minard et Clark évoluent à 20 secondes, et à l'instant c'est le petit breton de l'équipe Europe Car, Cyril Gauthier, qui sort des anciens compagnons d'échappée du groupe intercalé pour essayer de revenir sur Minard et Clark. Joli coup de pétard de la part du breton de l'équipe Europe Car.
Il ne se ressent pas des fatigues d'hier. On se souvient qu'il s'était échappé hier aussi, Cyril Gauthier. Il a des fourmis dans les jambes dans ce début de tour, hein.
On voit de l'Europe Car à l'avant tous les jours depuis le départ.
Il y a du vert, c'est la couleur de l'espoir, de l'espérance pour cette formation qui, vous le savez, recherche un sponsor. La moto RMC, on va voir ce que voit Georges Quirino qui est à l'avant de la course. Georges.
Oui, on est juste devant les deux échappés, devant Sébastien Minard et Simon Clark. On n'est pas encore dans la dernière ascension, hein. On va y arriver dans quelques instants pour les deux hommes de tête qui pour l'instant se relaient, qui ont quand même pris une marge, hein, par rapport à leurs anciens compagnons d'échappée, notamment Cyril Gauthier, que l'on n'arrive pas à distinguer derrière ces deux hommes de tête qui discutent beaucoup, mais qui pour l'instant sont concentrés sur leur effort. On est désormais sur des routes beaucoup moins tortuées que ce que l'on a vu depuis ce matin. Désormais même une ligne droite pour les deux coureurs. On a vu Simon Clark qui s'est largement écarté pour laisser passer Sébastien Minard. Les deux coureurs se sont observés peut-être un petit peu pour se jauger avant de débuter cette dernière ascension. À l'instant même, voilà le sommet à 3,3 km de ce col de Marsolino, classé en deuxième catégorie. On rappelle que depuis le début de cette étape, c'est l'Australien Simon Clark qui est devant, donc avec le Français Minard qui est passé en tête de toutes les difficultés de la journée.
Et qui devrait donc endosser le maillot à poids. A priori, Fred.
Oui, le porteur du maillot à pois, c'est Pierre Roland depuis hier. Mais la succession des cols du jour devrait dévêtir du coup l'ancien meilleur jeune du Tour de France à l'avant. Ça bouge encore, Georges. Sébastien Minard semble un peu en difficulté. Est-ce que tu vois quelque chose ?
Oui, alors on arrive à distinguer effectivement que Simon Clark est parti. Il est en danseuse désormais. L'Australien qui tente de partir tout seul dès les toutes premières pentes de cette ascension. Voilà, Simon Clark, on le distingue maintenant. Il arrive juste derrière nous en danseuse. Il vient de se rasseoir sur son vélo et effectivement, on ne voit plus dans sa roue Sébastien Minard, le coureur de la formation AG2R La Mondiale, qui a complètement explosé sous l'accélération du coureur australien de l'équipe Orica Green Edge, qui est désormais tout seul concentré dans son effort pour il a une bonne centaine de mètres d'avance désormais, 100-150 mètres d'avance sur Sébastien Minard. Simon Clark désormais seul en tête dans cette dernière ascension du jour.
Mais très bien, derrière évidemment ça commence à bouger, il y a du monde dans le groupe Eto et il y a aussi des leaders qui se rapprochent de l'avant-garde du peloton. Fred,
oui, on aperçoit évidemment les Radio Shack qui emmènent Yann Bakelands, le porteur du maillot jaune, dans les toutes premières positions. On est maintenant à moins de 20 secondes de l'homme de tête Simon Clark qui compte une dizaine de secondes d'avance sur les deux Français Cyril Gauthier et Sébastien Minard. Très très belle allure que celle du coureur australien de l'équipe Orica Green Edge, formé sur la piste comme nombre de ses compatriotes, qui, notons-le, est un pistard qui sait à peu près tout faire puisqu'il a remporté l'an passé le classement du meilleur grimpeur du Tour d'Espagne après avoir remporté une étape. Attaquant infatigable ce Simon Clark qui compte désormais 15 secondes d'avance sur Cyril Gauthier. Sébastien Minard est à l'instant absorbé par l'avant-garde du peloton, le peloton qui pointe à 20 secondes de l'homme de tête. Derrière, on craque du côté des sprinters, c'était prévu au pied de cette dernière difficulté de la journée. Cavendish est largué au même titre que Marcel Kittel, qu'André Greipel, mais aussi, et c'est une mauvaise nouvelle, d'Arthur Vichot, qui se ressent apparemment de sa chute tout à l'heure à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Le nouveau champion de France, Arthur Vichot, est en difficulté à l'arrière du peloton et terminera très attardé a priori tout à l'heure à Calvi.
15 kilomètres de l'arrivée dans l'ascension du col de Marsoline, nos dernières difficultés de la journée, dernière difficulté corse. Ensuite il y aura la descente et la ligne droite pour arriver à Calvi, lieu d'arrivée donc de cette troisième étape. L'échappée matinale est en train de véritablement exploser, un seul homme en tête, Simon Clark, qui ce soir revêtira le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur. Il y a un coureur de la formation Euskaltel qui se fait la belle.
Oui, c'est Igor Anton, le leader de l'équipe basque. Igor Anton qui ces dernières années s'était plutôt focalisé sur le Tour d'Espagne, qui avait porté le maillot de leader. Attention à Igor Anton qui lui aussi se sent des fourmis dans les jambes. Les leaders sont de sortie, celui-là c'est un leader de second rang va-t-on dire, pas forcément capable de jouer le classement général, mais on voit qu'à l'avant du peloton, eh bien le maillot à pois, Pierre Roland, Christopher Froome, Alberto Contador ou Yann Bakelands, le porteur du maillot jaune, tous sont dans les 10-15 premiers. On se prépare peut-être à une explication dans les 2 kilomètres qui viennent, les 2 kilomètres qui marquent la fin de cette ultime difficulté de la journée, classée en deuxième catégorie.
Alors que Simon Clark continue évidemment son effort, mais derrière ça revient très fort, Fred, avec d'abord Igor Anton et juste derrière le peloton, il n'y a que plus qu'une dizaine de secondes d'avance.
Pour, Igor Anton qui plafonne et qui ne compte qu'une petite poignée de secondes d'avance sur un peloton, toujours emmené par les Radio Shack de Yann Bakelands. Bakelands qui tient le coup. Cyril, est-ce que c'est une surprise de voir le Belge qui s'est révélé à lui-même hier, en remportant l'étape? Est-ce que le maillot jaune donne des ailes? Il est actuellement en deuxième position dans la roue d'un équipier.
Une chose est certaine, si ça ne donne pas des ailes, ça ne les raccourcit pas. Mais rappelons-nous que ce garçon a quand même gagné le Tour de l'Avenir, ce qui veut dire qu'il passe bien à la montagne, puisque dans le Tour de l'Avenir, vous avez toujours des étapes de montagne. Donc là, nous sommes sur des ascensions, une ascension de 3 km et demi. Je crois même qu'il a dû remporter Liège-Bastogne-Liège Espoir. Donc c'est des côtes qu'il affectionne particulièrement.
15 km de l'arrivée pour Simon Clark, qui possède toujours quelques secondes d'avance sur Igor Anton, qui vient de se faire reprendre, ou qui va se faire reprendre dans un un instant par le peloton avec une tentative d'un coureur de la formation Europcar, Fred.
Oui, encore du vert, toujours du vert. Un coureur de l'équipe Europcar qui est peut-être Gaël Malacarne, le coureur italien qui essaye de sortir avec dans sa roue surtout Pierre Rolland, son leader. Deux coureurs de l'équipe Europcar se reportent en ce moment sur l'homme de tête Simon Clark qui est déposé probablement par les deux coureurs de l'équipe Europcar. Pourquoi ? Parce que Pierre Rolland veut marquer des points et garder son maillot à poids dans ce col de deuxième catégorie.
Et il lui suffit de passer devant Clark tout à l'heure au passage de ce col de Marcelino pour conserver son maillot à poids de meilleur grimpeur. Pierre Rolland qui pourrait faire de ce maillot un objectif, même s'il vise surtout une bonne place au général. En tous les cas, derrière, ça réagit doucement avec une nouvelle tentative d'accord à la formation Euskaltel.
Oui, les Euskaltel qui se sentent comme chez eux au Pays Basque, où ça ne fait que monter et descendre un peu à la manière de ce final. La dernière difficulté du jour, le col de Marcelino. Trois coureurs en tête, Pierre Rolland et David Malacarne, l'Italien, son coéquipier de la formation Europcar, et Simon Clark qui tente de s'accrocher. Ça y est, l'Australien paye ses efforts de la journée. Pierre Rolland qui n'est pas vraiment à l'offensive dans la roue de son équipier pour l'instant. Il gère son effort, le vainqueur de l'étape de l'Alpe d'Huez il y a deux ans et de la Tout Suire l'an passé. Pierre Rolland qui passe en compagnie de son équipier avec une toute petite dizaine de secondes d'avance sur le peloton à 1 km du sommet du col de Marcelino.
Et tiens, rapidement, il y a un petit détour par Wimbledon. Il y a une balle de match contre Serena Williams.
Incroyable, Serena Williams éliminée du tournoi par Sabine Lisicki, l'Allemande. 6-4 au troisième set. Sabine Lisicki qui réussit la perf de sa carrière. Elle sort du tournoi, la tenante du titre, celle qui n'avait perdu que un ou deux matchs cette année. Incroyable sensation sur le central.
Incroyable Wimbledon où tous les grandissimes favoris chutent les uns après les autres. À tout à l'heure, Eric. Retour ici donc sur cette troisième étape du Tour de France avec Pierre Rolland qui en rajoute une petite couche, Fred, et qui va tenter de passer en tête au col de Marcelino.
En force, Pierre Rolland, le coureur orléanais de l'équipe Europcar qui avait terminé meilleur jeune du Tour de France et qui cette fois aujourd'hui sous le soleil corse est vêtu de cuissard et maillot blanc à pois rouge et qui va aller conserver à la surprise générale après que les échappés aient franchi trois difficultés au cours de la journée. Il va aller décrocher de précieux points dans ce col de deuxième catégorie. Pierre Rolland qui la joue fine et qui n'a pas menti hier en déclarant que ce maillot de meilleur grimpeur le faisait rêver quand il était môme. Eh bien, il poursuit son rêve, Pierre Rolland. Il est seul en tête avec quelques longueurs d'avance sur un coureur de l'équipe Euskaltel. Il compte 23 secondes d'avance sur le peloton, un peloton à l'avant duquel on trouve tous les favoris à 14 km de l'arrivée.
On va retrouver la moto RMC. Georges Quirino est-il au contact de Pierre Rolland? Est-ce que tu vois les poids qui arrivent?
Effectivement, on voit les poids qui arrivent, les poids de Pierre Rolland qui est poursuivi par ce coureur de l'équipe Euskaltel juste derrière lui. Il se retourne, le français de l'équipe Europcar qui pour l'instant est assis sur son vélo. Il n'est pas en danseuse et il lui reste encore un lacet à en franchir et ensuite cette longue ligne droite où il va voir énormément de supporters sur la gauche et la droite de la route. D'ailleurs, des supporters qui traversent n'importe comment actuellement devant nous et Pierre Rolland qui relance et qui regarde derrière lui pour essayer de passer au sommet de ce col de Marcelino.
Et on se rapproche du col, Fred, encore un peu plus d'un kilomètre. Il y a une nouvelle tentative en tête de peloton.
Oui, c'est un coureur de l'équipe Belkin, alors ex Blanco, ex Rabobank. Belkin qui est un sponsor qui a eu du nez en reprenant cette équipe vierge de sponsors à la veille du Tour de France. Ils ont posé leur nom sur un tout nouveau maillot vert. C'est un coureur qui tente de partir en contre-attaque derrière Pierre Rolland. Effectivement, Pierre Rolland qui était accompagné par le Basque Mikel Nieve et qui à une centaine de mètres du sommet du passage au col de Marcelino compte 26 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Il passe à l'instant.
C'est pas mal, hein, quand
il
même.
Il passe à l'instant et ne se relève pas. Bonne information. Si temps de roue libre, pour Pierre Rolland au sommet. Derrière, on aperçoit les coureurs de l'équipe Lotto avec Jürgen Vandenbroek. Attention, un leader pour le classement général qui tente de fausser compagnie à l'avant du peloton.
Dommage, dommage Lucho de se relever, non? C'est un peu dommage, il avait 25 secondes d'avance.
Il peut tenter, c'est pas les 10 km restants qui vont lui faire du mal pour les prochaines étapes, et je pense que Pierre Roland devrait continuer son effort, d'autant plus que Vandenbroek a attaqué derrière et qu'il peut éventuellement revenir sur Pierre Roland et avoir du renfort. Il reste maintenant 13 km. Pierre Roland qui fait la descente quand même assez vite, assez rapide, et en plus bon, c'est une descente très sinueuse, c'est à l'avantage aussi d'un coureur seul.
Il insiste finalement.
Et peut-être que Vandenbroek va pouvoir revenir sur lui, et ça serait bien d'avoir un renfort pour le final.
Alors Vandenbroek absorbé par l'avant-garde du peloton, il a tenté trop tard, le Belge leader de l'équipe Lotto. A priori, Pierre Roland va devoir tenter de filer seul vers l'aéroport de Calvi, longer cette longue plaine en direction de la ligne d'arrivée. Il reste 12 km et Pierre Roland compte 16 petites secondes d'avance sur le peloton.
Cyril, c'est vrai que le final n'est pas vraiment propice à un homme seul. Hein. Il y avait que les seules lignes droites de la journée, ce sera dans le final tout à l'heure.
Oui, bien sûr, puisque le parcours va longer l'aéroport. Un aéroport, par définition, c'est sur du plat.
Ah bah oui, ça avait des vies.
S'il était. Puis, comme il le longe, eh bien, la ligne droite fait rien de moins que 3 km. Donc il aura beaucoup de mal à résister au peloton, alors qu'il y a déjà là deux contre-attaquants, mais il n'y a qu'une vingtaine de secondes. On a pu voir qu'il restait quand même quelques sprinters dans ce peloton, dont bien sûr le sprinter grimpeur-rouleur Peter Sagan.
Et Sylvain Chavanel, me semble-t-il, Fred.
Oui, descendeur devant l'éternel, excellent descendeur qui a une année de plus depuis hier, lui qui a fêté ses 34 ans avec une déception. Échappé dans le final déjà en direction d'Ajaccio il y a 24 heures, il retente sa chance. La descente n'est pourtant peut-être pas assez technique, pas assez sinueuse, mais là il prend tous les risques avec son beau vélo orange fluo à la couleur de sa voiture de sport, le cadeau de l'équipe Omega Pharma Quickstep. Son nouveau vélo orange est en train de prendre quelques longueurs d'avance au peloton, tandis que Pierre Roland compte toujours une vingtaine de secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Sylvain Chavanel compte lui 50 mètres d'avance. Chavanel dans une position aérodynamique qu'il affectionne. Full gas, comme
il donne des frissons à Lucho, hein, quand tu le vois descendre à tombeau ouvert comme ça.
À un moment donné,
ça fout
virage,
c'est pas Lucho qui descend là.
Oui, bon, mais bien sûr, oui, mais enfin bon,
je descendais
pas trop mal, mais pas comme Sylvain Chavanel.
Très bien, nous sommes donc à quasiment 10 km de l'arrivée de cette étape. Un seul homme en tête, Pierre Roland, porteur du maillot à poids, deux meilleurs grimpeurs, 10 km de l'arrivée.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Numéro d'équilibriste pour Sylvain Chavanel, toute dents dehors et qui prend de l'angle à la manière des pilotes moto dans les nombreux virages de la descente du col de Marcelino. Sylvain Chavanel à la poursuite de Pierre Roland. Les Français sont à l'avant et encore de l'Europe Car en tête de la course. On est à 9 km 500 de l'arrivée et Pierre Roland, les mains en bas du guidon, dans un style très fluide, tente de conserver l'avance, une avance qui fond tout doucement, 15 secondes d'avance pour le leader de l'équipe Europe Car sur le groupe maillot jaune.
Et si Sylvain Chavanel, Cyril, parvient à rattraper Pierre Roland, peuvent-ils collaborer les deux hommes? On sait que Chavanel a été un ancien coureur de Jean-René Bernodeau. Hein.
Oui, c'est évident que si Chavanel est sorti derrière Pierre Roland, lorsqu'ils vont se regrouper, ils vont collaborer tous les deux. Ils ont d'ailleurs intérêt, sinon ils vont être rejoints dans les hectomètres suivants.
Oui, merci pour cette réponse. La moto RMC, est-ce qu'elle voit quelque chose? Donc je crois qu'elle a été obligé de dégager Georges, parce que là évidemment la bagarre dans les derniers kilomètres de cette étape, est-ce que tu vois quelque chose? Non, il est parti.
Non, évidemment on a basculé dans la descente, donc là c'est très compliqué d'apercevoir Pierre Roland et ses trois poursuivants. On est désormais dans une longue ligne droite juste après cette descente, donc Pierre Roland qui va se retourner et il va certainement voir les trois contre-attaquants qui pourront l'apercevoir juste derrière lui et le peloton en ligne de mire.
Voilà, parce qu'ils ne sont plus, il n'y a pas seulement Sylvain Chavanel, ils sont trois derrière Pierre Roland désormais.
Oui, derrière Pierre Roland, on l'avait dit dans le final du col de Marcelino, il y avait le basque Mikel Nieve qui avait attaqué en compagnie notamment d'un coureur de l'équipe Belkin. Ce coureur, c'est le Norvégien Lars Peter Nordhaug, mais le numéro que réalise actuellement Sylvain Chavanel pour revenir sur Pierre Roland est impressionnant. Chavanel qui rentre à l'instant sur le porteur du maillot à pois orléanais, deux Français à l'avant de la course, Chavanel et Roland. Chavanel qui a déposé Nordhaug et Mickaël Niévé à la pédale en bas de la descente. 2+2, deux coureurs en tête plus deux contre-attaquants, et le groupe maillot jaune a une quinzaine de secondes. Deux Français, Chavanel et Roland, comptent quelques longueurs d'avance sur le Basque Niévé et le Norvégien Nordhog. On est à nouveau sur des parties planes en direction de Calvi. Il reste 8 km et les deux Français, Chavanel et Roland, se relaient parfaitement.
Cyril, nos deux Français ont-ils une chance d'aller au bout de cette étape là avec ces longues lignes droites et quasiment plus que 9 secondes d'avance, hein?
Oui, bah, ils sont en train de se regrouper à 4. On va voir comment ils vont collaborer. Mais derrière, on s'aperçoit que l'équipe Orica Green Edge a tout simplement pris la tête des opérations. Et à mon avis, ça n'est pas par hasard. Leur sprinter a dû passer sans encombre l'ascension.
Et oui, on va essayer de faire le décompte tout à l'heure des sprinters qui sont restés dans ce gros paquet, dans ce groupe maillot jaune. Mais en tous les cas, c'est vrai que ça file très vite. Lucho, tu y crois pour Chavanel, Roland et ses deux et leurs deux compagnons d'échappée?
Non, c'est pas évident, hein, parce que l'équipe Orica Green Edge est en train de relancer derrière le peloton. En plus, ils vont avoir le renfort de l'équipe de Peter Sagan, hein, l'équipe Likougas. Donc ça sera quand même très difficile pour Sylvain Chavanel, d'autant plus que Sylvain prend beaucoup plus de relais appuyés que ses principaux concurrents. Donc je vois mal comment. En plus, il y a beaucoup de lignes droites, hein, avec du vent défavorable. Ça sera difficile avec 8 secondes d'avance maintenant. Ça sera vraiment dur pour eux.
Voilà. Les Cannondale ont repris la tête du peloton, les ex-Liquigas en effet, les coéquipiers de Peter Sagan, qui ramènent le peloton à 8 secondes seulement du quatuor de tête. Un quatuor, on vous le rappelle, composé de deux Français, Pierre Roland, maillot à poids, et qui le restera ce soir ici à Calvi. Sylvain Chavanel, grand déçu d'hier en direction d'Ajaccio, qui tente une deuxième carte sur ce début de Tour de France. Il y a également le Basque Mickaël Niévé et son maillot orange de la formation Euskaltel, et puis un coureur de l'équipe hollandaise Belkin, l'ancienne Rabobank. Il s'agit du Norvégien Lars-Peter Nordhog. Quatre coureurs qui s'entendent relativement bien et qui résistent pour l'instant à 6 km de l'arrivée dans les plaines en direction de Calvi. 6 km de la ligne et 10 secondes d'avance sur un peloton qui les garde véritablement à portée de fusil. L'avant du peloton toujours emmené par les Cannondale de Peter Sagan et les Orica Green Edge de Matthew Goss, l'ancien vainqueur de Milan-San Remo, ou de son équipier australien Simon Gerrans.
Voilà, Pierre Roland, leader de la formation Europcar, est en tête de cette course, et son lieutenant, ou plutôt son capitaine de route, Thomas Vauclair, lui, se trouve à l'arrière. Ça énerve Lucho de voir Thomas. Mais comme ça, il prend moins de risques, non, en se retrouvant derrière le
oui,
peloton?
Oui, si, il prend moins de risques. Il prend le risque surtout de prendre des chutes. Dans un final, il faut toujours rester dans les 15-20 premiers, ne pas traîner derrière le peloton.
Oui, mais on a vu l'autre jour
même si
c'est
le peloton est réduit de plus de la moitié, il n'empêche qu'une chute est vite arrivée dans le final, parce que ça frotte beaucoup, et voilà. Donc il faut quand même se méfier pour Thomas Vauclair, qu'il ne perde pas de temps par rapport à tout ça.
C'est un débat qu'on pourra reprendre ultérieurement, parce que Thomas Vauclair ne tombe quand même pas souvent, hein, en de ouais. nombreuses années de professionnalisme. Il arrive quand même à voir clair dans la course. 5 km de l'arrivée, toujours 4 hommes en tête et un homme qui montre les dents à sa manière, le coureur originaire de Châtellerault, ancien champion de France de la course en ligne, champion de France en titre du contre-la-montre. C'est évidemment Sylvain Chavanel, qui a déjà remporté des étapes sur le Tour de France, mais qui cette année reste sur une déception. C'était il y a 24 heures en direction d'Ajaccio. Il en avait fait beaucoup à l'avant dans le final de l'étape et avait permis quelque part avait permis à Yann Bakelands de remporter l'étape, lui qui avait été avalé par le peloton. Le seul Belge de l'équipe Radio-Shack avait réussi à résister au retour du peloton. Déçu Chavanel, mais revanchard aujourd'hui Chavanel, qui incite ses compagnons d'échappée, à savoir Pierre Roland le Français, Mickaël Niévé et Lars-Peter Nordhog, un Norvégien, à le relayer. Mais c'est encore bien lui, Chavanel, dit Mimosa dans le peloton.
Bon, il ne faut plus l'appeler comme ça, paraît-il.
Il
n'aime
pas, qui en fait le plus. On est à un peu plus de 4 km de l'arrivée et contre à l'instant, ça ne roule pas assez vite. Il va nous faire la même chose. Lars-Peter Nordhog, le coureur norvégien de l'équipe Belkin, va tenter de faire la même chose que Yann Bakelands hier. Cette fois, Sylvain Chavanel est à l'affût et saute dans la roue du coureur norvégien. Ça ne s'entend plus à moins de 4 km de l'arrivée.
Moins de 4 km de l'arrivée et toujours ces longues lignes droites. Peu d'avance pour Chavanel et ses trois compagnons d'échappée, parmi lesquels on retrouve évidemment Pierre Roland, le porteur du maillot à pois rouge de meilleur grimpeur, et qui va conserver ce soir ce maillot. Derrière, évidemment, le peloton maillot jaune est en position de recherche d'échappée, de lutte contre l'échappée, et on commence à se placer chez les sprinteurs.
Avec un peloton qui, à l'instant, absorbe les échappées, dont le dernier escapé, Pierre Rolland, maillot, cuissard, casque à poids, vient de se faire avaler par l'avant-garde du peloton, un peloton emmené par les Radio Shack du maillot jaune, Yann Bakelands. Bakelands qui n'est plus dans les toutes premières positions, mais un que l'on voit dans les toutes premières positions, c'est Andy Schleck, le leader de l'équipe Radio Shack, le luxembourgeois, vainqueur du Tour de France sur tapis vert en 2010, emmené par son coéquipier Markel Irizar. Andy Schleck qui semble retrouver des jambes, ouais, sur ce début de Tour de France, 3 km de l'arrivée, peloton groupé.
Peloton groupé, on va donc essayer, Cyril, je ne sais pas si tu as pu repérer quels étaient les sprinteurs et les hommes les plus rapides au sein de ce groupe, car désormais c'est quasiment une certitude, cette troisième étape s'achèvera au sprint dans quelques instants, Cyril.
Bien, vraisemblablement nous avons Matthew Goss, nous avons Peter Sagan, il doit y avoir Chimolai également, Duggan Kolb a été lâché, Kittel, oui, a été lâché, Boigny a été lâché, Christophe était tout à l'heure en difficulté, Greipel, je ne pense pas qu'il est passé.
Donc, Greipel largué, tout comme Mark Cavendish, évidemment.
Voilà. Donc, je pense que nous avons Matthew Goss, Peter Sagan, et que les choses vont tourner autour de ces deux hommes. Et puis, ouais, j'ai presque.
Attention, une attaque
en tête de course d'un coureur de l'équipe Argos, coéquipier de Marcel Kittel et de John Degen Kolb. Ces deux sprinteurs qui sont largués à cause du final très pentu avec le col de Marcelino, un coureur qui ressemble à Lauren Stendam, un longiligne coureur de l'équipe Argos, à moins de 2 km de l'arrivée. On va tâcher d'identifier ce coureur de la formation néerlandaise. Derrière, les Radio Shack sont en train de lutter pour conserver le maillot jaune au sein de l'équipe. Yann Bakelands, le maillot jaune, est toujours dans ce groupe de favoris qui compte environ 80 unités.
Voilà, 1,6 km maintenant de l'arrivée, et le coureur de la formation Argos qui a fait le trou par rapport au coureur du peloton, il s'agit de
Tom Dumoulin, un Hollandais particulièrement bon dans l'effort solitaire. Tom Dumoulin, une force de la nature, longiligne, à l'image de ses coureurs néerlandais de l'équipe Argos Shimano, l'ancienne équipe Skill. Il compte à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée, une dizaine de mètres d'avance, il insiste, mais derrière, les Cannondale sont à la chasse.
La flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Le dernier kilomètre est donc un seul homme en tête, Dumoulin, qui tente de résister au peloton qui revient lancer avec les grosses cuisses qui se mettent en position, Fred.
Attention, ce n'est pas Samuel Dumoulin, le Français. Non. Ce n'est pas du tout le même gabarit. Le coureur hollandais Tom Dumoulin, coureur de l'équipe Argos Shimano, qui, selon toute vraisemblance, va être avalé dans les prochaines dizaines de mètres par un peloton lancé à sa chasse. Les Cannondale de Peter Sagan sont à l'avant et avalent à l'instant pour le dernier virage, un 90 degrés en direction de la ligne d'arrivée, à un peu plus de 600 mètres maintenant de la ligne. Peter Sagan en deuxième position derrière un coéquipier. On aperçoit également les Orica Greenedge qui placent sur la droite de la route Simon Gerrans, l'ancien vainqueur de Milan-San Remo, également présent. Peter Sagan particulièrement bien placé. On aperçoit également le José Joaquín Rojas, sprint lancé à 200 mètres par Simon Gerrans, le sprinter australien de l'équipe Orica Greenedge, débordé sur la gauche de la route par Monsieur Hulk. Peter Sagan et Simon Gerrans qui terminent exactement sur la même ligne, et aucun entre Gerrans et Sagan n'ose lever les bras, n'ose manifester la moindre joie. Il faudra attendre la photo finish pour déterminer le vainqueur de cette troisième étape. La victoire se jouera pour quelques millimètres entre Simon Gerrans, l'Australien de l'équipe Orica Greenedge, et Peter Sagan de l'équipe Cannondale. Simon Gerrans qui, pour un boyau, disons-le, Simon Gerrans, qui vient remporter la deuxième étape du Tour de France de sa carrière. Lui qui s'était imposé déjà lors d'une étape dans les Alpes, c'était en Italie, si mes souvenirs sont bons. Simon Gerrans, coureur passe-partout, coureur capable de régler des pelotons en arrivée en petit comité, mais là il reste restait tout de même encore 80 coureurs. Simon Gerrans qui devance donc sur le fil après avoir été doublé par Peter Sagan. Il est revenu, il a produit un double effort en fait. Simon Gerrans qui devance Peter Sagan et José Joaquín Rojas, espagnol.
Pierre-Yves Leroux avec Sylvain Chavanel.
Que de subir derrière. Juste pour demain, pour le contre-la-montre par équipe. Bon, c'est pas parce que vous faites du travail pendant 5 bornes que ça va laisser des forces. Je suis pas là pour le classement général. Donc moi, j'ai pas à calculer.
Vous avez des bonnes jambes, Sylvain, là.
Sylvain qui est en train de boire un coup après, après le passage de la ligne. On va essayer de le suivre.
Et on rappelle la victoire de Simon Gerrans, l'Australien installé à Monaco, coureur de l'équipe Orica Greenedge. Et bien l'équipe Orica se sera mise en évidence tout au long de la journée avec la fuite en avant de Simon Clark qui a longtemps animé l'échappée matinale.
Et il est passé plus vite sur la ligne que son bus en tous les cas, Gerrans.
Oui, Gerrans qui devance pour un boyau donc Peter Sagan, le maillot vert du dernier Tour de France. Sagan qui va peut-être du coup endosser le maillot de leader du classement par points ce soir. Maigre consolation pour celui qui avait remporté 3 étapes sur le Tour de France l'an passé, Peter Sagan, qui est un animateur de la vie du peloton et qui ne s'est pas mis assez en évidence aujourd'hui, devancé d'un boyau par Simon Gerrans, un Gerrans l'Australien, 2 Sagan le Slovaque et 3 Rojas le sprinter espagnol de l'équipe Movistar.
Ouais Cyril, il est parti Gerrans, c'est vrai que Peter Sagan vient mourir sur la ligne derrière Gerrans, mais il lui manque un tout petit quelque chose là sur ce coup-là.
Mais Gerrans a surtout fait un sprint très intelligent, un sprint de pistard, puisqu'il avait son équipier qui l'emmenait, et aux 250 mètres, il s'est laissé décrocher, il a perdu 2 longueurs sur son équipier qui l'emmenait pour prendre sa vitesse, pour lancer son sprint, de prendre l'aspiration pour prendre un maximum de vitesse au moment où il allait déboîter. Peter Sagan, à partir de ce moment-là, ne pouvait plus le remonter. Ouais. Il pouvait revenir à un quart de roue, mais il ne pouvait pas le sauter.
Oui, non, on n'a pas Pierre-Yves encore, on va le retrouver dans
un mot sur le maillot jaune. Jan Bakelands est arrivé sur la ligne d'arrivée dans ce groupe qui s'est disputé la victoire et devrait donc, puisqu'il n'y a pas de bonification, conserver la tête du général.
Pierre-Yves en compagnie de Jérôme Coppel.
Oui, on vous avait dit qu'on prendrait de ses nouvelles. Jérôme Coppel, avec un début de Tour de France compliqué. Jérôme, donnez-nous de vos nouvelles.
Bon, aujourd'hui ça allait un peu mieux, c'est pas encore ça, j'ai toujours mal aux côtes, mais bon, c'était déjà mieux qu'hier, donc j'espère que ça va aller en progressant, mais bon, ça fait toujours mal.
Avec une étape compliquée encore aujourd'hui, mais vous avez retrouvé les sensations?
Ouais, des sensations, c'est un grand mot, ça allait mieux qu'hier, mais ouais, étape compliquée, petite route tendue, donc voilà, j'espère que ça sera un peu moins compliqué quand on va revenir sur le continent, mais bon, c'est pas gagné le tour, c'est toujours compliqué.
Ça change un petit peu la stratégie de l'équipe ces premiers jours?
Ouais, ça change parce que voilà, on est parti à 3 leaders, maintenant on n'a plus que Dani. Bon, il marche très bien. Moi je suis en train de retrouver des sensations, donc pour l'aider en montagne ça sera bien, je pense qu'il est capable de faire de belles choses, et bon, il y a des victoires d'étape à aller chercher.
Voilà, donc un petit peu de confiance retrouvée, on dira aujourd'hui ça allait un petit peu mieux.
Voilà, un petit peu mieux, j'espère que c'est sur la bonne voie.
Merci beaucoup Jérôme Coppel derrière la ligne.
Très bien, Jérôme Coppel qui, on le rappelle, a été victime d'une chute avant-hier et qui est très très loin au classement général, lui qui visait une bonne place dans les 10 ou dans les 20 premiers de ce Tour de France et qui doit désormais se contenter d'espérer remporter une victoire d'étape, ce qui serait déjà évidemment pas mal. Fred, on va rappeler les résultats donc de cette 3e étape et la victoire d'un Australien aujourd'hui en Corse.
Avec la victoire de Simon Gerrans, trentenaire de l'équipe Orica Greenedge, passé par les rangs de l'équipe AG2R La Montiale, qui a déjà remporté une étape du Tour, c'était dans les Alpes en Italie en 2009. Et bien Simon Gerrans, également ancien vainqueur de Milan-San Remo, devance ici à Calvi au terme de la 3e étape d'un boyau, le Slovaque Peter Sagan, qui va finir par être déçu, lui qui avait déjà échoué à la 2e place hier à Ajaccio. Peter Sagan, 1 Gerrans, 2 Sagan, 3 Rojas l'espagnol, 4e, un nom qui sonne difficilement mais que l'on entend fréquemment depuis le départ du Tour, il s'agit du Polonais Kwiatkowski, 5e le champion du monde Philippe Gilbert, et au classement général, le Belge vainqueur hier à Ajaccio, Jan Bakelands, conserve le maillot jaune. Il garde une seconde d'avance sur son dauphin qui n'est plus plus David Millard, mais bel et bien Julien Simon, le français de l'équipe Soja Sud.
Pierre-Yves en compagnie d'un grand leader du Tour de France.
Alberto Contador.
La Corse est finie. Je progresse de jour en jour et j'espère que demain.
Very strong team. Adolf Dain is with me in the stage. And okay, tomorrow will be a day. Okay.
Et demain ce sera un autre jour.
Voilà, c'était juste un mot. Et on va peut-être continuer en espagnol avec Alberto.
Ah oui. Sí.
Muy nervioso en el cual voy a haber caídas en cualquier momento, había que estar.
Mais c'était très nerveux. Il y avait beaucoup de chutes.
Muy contento con el equipo, me está ayudando.
Je suis très content avec le travail de l'étape.
No, un poco, que todavía tengo cargada la musculatura de la tensión que ejerces cuando tienes la caída, pero mira, contento, he salvado estos días sin.
N'a concerné que mes muscles, pas mes os, c'est une bonne chose.
Una buena crono.
Maintenant, le but demain, ce sera de réaliser un bon chrono avec l'équipe.
Bueno, va a ser un poco más a nivel de equipo, más que a nivel personal de los líderes, pero bueno, sí que pues va a fijar un poquito lo que es la clasificación general, que ahora mismo pues está en el aire totalmente, ¿no?
Voilà, l'objectif reste le classement général, évidemment, pour Alberto Contador, qui eh bien, s'est rassuré. On a pu l'entendre, lui qui avait tâté du bitume sur la première étape en direction de Bastia, qui avait franchi cette ubuesque ligne d'arrivée avec le cuissard et le maillot déchiré. Apparemment, bien content que les étapes corses soient derrière lui. Désormais, on peut penser au classement général. C'est exactement ce que redoutait les favoris au classement général, de perdre le Tour de France avant même de pouvoir le gagner. Eh bien, le sort en a décidé ainsi. Contador sort indemne de la Corse.
Pierre-Yves Leroux en compagnie d'un des leaders français de ce Tour de France.
Ouais, Jean-Christophe Perrault qu'on retrouve juste à l'entrée des douches. Jean-Christophe, puisque vous allez avoir le centre de presse là pour prendre la douche avant de repartir vers le continent. Jean-Christophe, quelles sont les sensations en ce début de Tour de France et notamment avec cette étape qui était très compliquée aujourd'hui?
Ouais, les sensations sont convenables. Aujourd'hui, je pense qu'on a particulièrement souffert de la chaleur. Il faisait très très chaud. C'était un peu les premières chaleurs pour nous. On a eu de la pluie un petit peu toute l'année jusqu'à présent. Donc oui, une étape difficile quand même.
Voilà, maintenant la Corse est passée. C'est ce que disait Alberto Contador il y a quelques instants. Il faut se concentrer notamment sur le contre-la-montre par équipe qui arrive.
Oui, ben, c'est un effort collectif. Il va falloir qu'on soit homogène et solidaire. Donc voilà.
Voilà, concentration maximum. Merci beaucoup Jean-Christophe Perrault, à qui on fait signe. Il faut aller vers la douche. On va glisser le micro à Sylvain Chavanel qu'on a entendu rapidement tout à l'heure.
Ouais, je sais pas. On verra.
Sylvain, juste un mot, on est en direct sur RMC. Vous avez tenté, comme sur ce début de Tour de France, qu'est-ce qui a manqué un petit peu de jus sur les derniers kilomètres?
Bah, il manque toujours quelque chose hein, pour le final. Je disais, on a un cyclisme moderne quand même, c'est toujours difficile de sortir, mais après, qui tente rien n'a rien. C'est pas en attendant et en restant dans un fauteuil que je vais réussir à faire quelque chose. Donc voilà, on essaye.
Vous avez montré que vous étiez capable de sortir quand même, comme souvent.
Ouais, entre montrer et d'aller gagner, c'est encore autre chose.
Vous avez fêté votre anniversaire hier, il manquait juste ça, soit hier, aujourd'hui la victoire. Vous êtes confiant, les sensations sont bonnes?
Bon, les sensations sont pas super. J'espère m'améliorer de jour en jour. C'est long le Tour de France. Voilà, je suis arrivé en bonne condition, mais il faut encore s'améliorer.
Merci beaucoup Sylvain Chavanel qui fêtait son 34e anniversaire hier avec les lèvres trempées dans le champagne, hein, pas plus, il ne veut pas abuser évidemment.
Ah ben, il ne faut pas abuser pendant le Tour de France, il aura le temps d'en boire des coupes après le Tour. Il lui manque pas grand chose à chaque fois Cyril à Sylvain Chavanel, mais bon, malheureusement, il y a eu le championnat de France il y a une semaine, il y a eu l'étape d'hier, l'étape d'aujourd'hui, ça doit être rageant quand même à force hein, de passer à côté, même s'il n'a rien à se reprocher aujourd'hui. Ok, Lucho, la même question.
Non, il n'a rien à se reprocher, sauf que ça va pas au bout. Alors est-ce qu'il faut sortir sur une étape comme celle-ci?
Oui, quand ça va au bout, mais c'est souvent que il sort et que ça ne va pas au bout. Hier il sort, lui ne va pas au bout, mais c'est quelqu'un d'autre qui y va. Je pense qu'il manque peut-être un tout petit, vous savez, le petit pourcent qui fait que on sort au bon moment, dans la bonne échappée, et qu'on est capable de ressortir et d'aller gagner comme l'a fait Backland hier. Moi personnellement, hein, honnêtement, si j'avais été directeur sportif, j'aurais pas demandé à mes coureurs de sortir de cette façon-là, où il fallait basculer avec 30 secondes.
Mais Sylvain Chavanel est un vrai coureur, un coursier, comme on dit dans le peloton, et heureusement qu'on a ce type de coureur capable de dynamiter la course, que
ça
soit
un bon débat ce soir,
que ce soit dans la côte ou dans les descentes. Sylvain Chavanel, c'est son terrain de jeu, ce type d'étape escarpée. Il est capable de sortir de la boîte à n'importe quel moment, et heureusement qu'il est là, l'animateur, l'attaquant, le dynamiteur presque, Sylvain Chavanel.
Très bien, ça nous fera un très bon débat. On en a déjà trouvé un, hein, Cyril, c'est pas mal. Hein,
c'est même très bien, oui.
On retourne derrière la ligne avec Pierre-Yves Leroux, avec un Britannique en approche.
Oui, exactement, David Millard, qui est en séance de décrassage. David, il y a quelques kilomètres en plus après cette difficile étape. David, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos sensations? On sait que vous avez fait un bon tour de Corse dans ce Tour de France. Vous êtes plutôt satisfait?
Oui, très satisfait. Je n'ai pas attendu d'être aussi près sur le général, surtout hier. Et bon, ça c'est un bonus, parce que moi je suis ici pour aider nos coureurs de général et de faire la différence dans le chrono par équipe. Alors, si maintenant on fait ça et on gagne, je suis dans le jaune, ça c'est un bonus.
Parlez-nous de ce chrono par équipe, là, c'est l'objectif, premier objectif pour cette équipe Garmin.
Pas tout à fait. C'est le premier objectif de la première semaine. Si on peut réussir ça, ça nous met dans une bonne place pour les autres objectifs plus tard dans la course. Mais bon, pour l'instant, on s'applique sur ça et on espère de faire quelque chose de bien.
Dernier mot sur les paysages. C'était facile de se concentrer sur la route quand on a de si beaux paysages à côté?
C'est un peu... il fallait rester concentré aujourd'hui avec les routes à gauche, à droite, monter, descendre. Mais bon, c'est vrai que c'était très beau. Ça faisait une belle différence. Je peux imaginer les départs de tour pire que ça.
Merci beaucoup, David, qui continue à pédaler là sur son vélo et qui nous répond, c'est sympa, merci beaucoup.
Il fait 145 bornes et pomme, il continue à pédaler après. Messieurs, il est 16h47, on va se retrouver dans un instant. On rappelle tout de même la victoire d'un Australien aujourd'hui à Calvi, Fred.
Il a 33 ans, il s'appelle Simon Gerrans, coureur expérimenté et coureur déjà chevronné, ancien vainqueur de Milan-San Remo et d'une étape du Tour en 2009. C'était pas en 2009, je sais plus, mais c'est sa deuxième étape. Simon Gerrans qui devance sur la ligne au sprint Peter Sagan et l'Espagnol Rojas. Au classement général, Jürgen Backelands garde le maillot jaune, le coureur belge qui devance d'une seconde le Français Julien Simon.
16h47, toute l'équipe de l'Intégral Tour vous retrouve dans un instant pour analyser cette troisième étape du Tour de France.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour.